Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série, L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous rencontrons un collectionneur des amoureuses et amoureux du vivant qui lui aussi fait naviguer leur vision à travers les ondes. Peux-tu te présenter ? Pour nos auditrices et auditeurs.
Je m'appelle Marc Mortelmans, j'ai 52 ans, je suis journaliste et podcasteur, et maintenant auteur et conférencier. Et en gros, mon truc, pour faire simple, c'est le vivant, c'est la biodiversité. C'est un mot que j'aime pas trop, c'est un mot qui est un peu technocratique, la biodiversité. Tout de suite, quand j'entends biodiversité, je pense sur un tableau Excel. Donc voilà, moi mon truc c'est de mettre mon petit savoir-faire de conteur, de raconteur, de journaliste au service de ce qui reste du vivant qui survit dans les marges qu'on lui laisse ou pas autour de nous. Une de mes petites particularités c'est que de 30 à 40 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite à l'envers comme je dis, c'est-à-dire j'ai décidé de voyager et d'aller exactement là où le vent et mes chaussures me portaient à l'époque. Pendant 4 ans j'ai bossé comme prof de plongée en Sinaï en Égypte, à Sharm el-Cheikh et à Dahab. Après ça, je suis allé me perdre 2 ans en Amérique latine, comme prof de plongée au Honduras, au Costa Rica, au Galapagos, puis au Chili. Ensuite, j'ai fait autre chose au Chili, je suis devenu guide d'expédition montagne. Et je pensais rester 2 mois au Chili, je suis resté 6 ans, avoir grimpé beaucoup de montagnes, beaucoup sur la faune et la flore des Andes. Au Chili, je suis rentré en France. Et grosso modo, je suis redevenu le journaliste que j'étais avant tout ça. Et à la faveur, puisqu'il y a toute chose malheureusement du Covid, j'ai créé un podcast qui s'appelle Baleine sous pavillon, qui est une série de 4 podcasts dans laquelle il y a Baleine sous pavillon, Combat, Nomen qui raconte un peu les origines du vivant, et Petit Poisson devient un podcast qui raconte tout ce qui est dans le résumé. Et depuis 2 ans, depuis 2022, je fais un autre podcast sur France Culture qui s'appelle Mécanique du vivant. Et je pense que les titres sont assez clairs. Je suis une sorte de curieux professionnel et non professionnel. Donc oui, je m'intéresse à absolument tout. Au cinéma, au bouquin. Je viens d'écrire mon premier bouquin qui débunk un peu les idées fausses sur le monde vivant. C'est un petit bouquin d'ailleurs. Là, je suis en train d'écrire un deuxième bouquin qui raconte les origines du monde du vivant. Je suis vraiment passionné de gratouiller autour de l'origine des mots. Parce que je pense que les mots, quelle que soit leur langue d'ailleurs, je suis aussi un passionné de langue, racontent toujours quelque chose de passionnant. Dès qu'on gratte un peu sous la surface. Et ça, c'est vrai de beaucoup de choses. Dès que tu grattes sous une passion, quelle qu'elle soit, que ce soit, encore une fois, le vivant, mais ça peut aussi être l'histoire ou la cuisine, ou le sport, dès que tu grattes un peu, que tu cherches un peu, tu découvres d'autres choses, et voilà, tu dévides des pelotes, et moi, c'est un peu ça, mon fil directeur.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour toi? Saurais-tu le décrire en 3 mots? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son.
Je dirais pétrichor en premier. Ça s'écrit pétrichor, et le pétrichor, tu sais, l'odeur du sol après la pluie. Et là encore, c'est génial quand tu grattes un peu derrière tout ça. Tu sais, quand on se promène et qu'il vient juste de pleuvoir juste avant, il y a une odeur de terre et d'humus qui ressort. Et j'adore cette odeur. C'est un peu comme l'odeur de la bouse de vache ou du crottin de cheval. C'est des odeurs que j'adore. Des odeurs de grange, d'animaux, je trouve qu'il n'y a rien qui sent meilleur qu'un chien mouillé, mais qu'un cheval, par exemple. Un deuxième mot, c'est l'eau, tout simplement. Il y a des gens qui sont plus aériens, il y en a peut-être qui sont terriens, il y en a peut-être qui ont un tempérament ou un comportement, une vie de feu, volcanique. Mais moi, clairement, je suis un mec de l'eau. Tu vois, j'ai 5000 plongées au compteur, j'ai travaillé, enfin j'ai passé quasiment 5 ans de ma vie quasiment tout le temps dans l'eau, enfin une grande partie des journées. Et puis il y a toute cette notion de, tu sais, de jouer avec le fait que l'eau te porte. Et par exemple, quand tu regardes quelque chose de très près dans l'eau, d'ajuster ta flottabilité rien qu'en respirant. Ce genre de finesse, je trouve ça très, à la fois très poétique et très doux. Et ça tombe bien, hein, c'est dans l'eau que la vie est née. En plus, tout le vivant doit à peu près tout à l'eau. Encore aujourd'hui, notre corps est composé de 2/3 d'eau. Le tien, le mien, celui de celles et ceux qui nous écoutent. Troisième mot associé au vivant, je mettrais un adjectif qui serait l'adjectif malmené. C'est pas très gai, mais je me désole qu'on en soit toujours à peu près au même stade, et même que ça empire. Tiens, clairement, le vivant sauvage est en train de disparaître autour de nous, de se réduire à une peau de chagrin. Et donc, pour moi, il n'y a rien de plus important dans ma vie que de faire tout ce que je peux dans cette petite miette de vie qui m'aura été accordée sur Terre pour essayer de descendre un peu ce vivant qui vraiment est malmené. Alors, la couleur, c'est le bleu. C'est la couleur de la mer, on va dire, qu'on associe souvent à l'eau dans des conditions normales, hein, on va dire hors marée noire et hors couche d'égout. Dans le vivant, en biologie, le bleu est une couleur qui est au final assez rare. Tu sais, le bleu chez les oiseaux est loin d'être une couleur dominante. Il y a assez peu d'espèces qui ont du bleu sur leur corps. Et idem chez beaucoup d'autres animaux. Donc ce qui est rare et précieux est l'odeur des autres. Tu sais, il y a une expression en français qui dit « celui-là, je ne peux pas le sentir ». Je pense vraiment que les odeurs qu'on dégage, et surtout celles qu'on sent, sont pleines d'informations. L'être humain est une espèce extrêmement visuelle. C'est-à-dire que même les animaux qui nous entourent comme les chiens misent beaucoup moins sur ce qui est visuel, que comme chacun sans doute, que sur ce qui est de l'ordre des odeurs. Les odeurs pour les chiens sont très importantes. Ce sont des signaux de communication apparentés bien plus que pour nous. Mais je pense que notre fameuse part animale qui est si rabotée, si enfouie, si oubliée, qu'on peut ou qu'on doit essayer de retrouver pour renouer ce lien perdu avec le vivant, je pense que, pour moi, les odeurs des gens sont très parlantes, sont très importantes. Je me fie beaucoup à mon instinct. Et dans le même ordre d'idée, les voix des gens me racontent les gens. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement sensible et attentif aux voix des gens. Toi, par exemple, je t'ai jamais vu. Et je serais curieux de te voir. Parce que forcément, ta voix dessine une sorte de visage. Et tu vois, je suis toujours curieux de rencontrer les gens dont je n'ai connu au départ que la voix. Parce que je pense que tout est signe dans la vie. C'est-à-dire que tout simplement, quand tu marches dans la neige, la trace que tu laisses indique beaucoup de choses. C'est un signal, c'est un médium, c'est un message qui peut être décrypté. Elle indique déjà au moins ta direction. Un œil exercé pourra voir, évidemment, quel type de chaussures tu as, quel poids tu as en fonction de l'écrasement de la couche de neige, etc., etc. Tu sais, c'est le truc, je pense qu'en étant un tout petit peu observateur, un tout petit peu curieux, on peut lire beaucoup de choses. Alors, concernant le goût, la Madeleine de Proust à moi, c'est le clafoutis aux cerises, sans cerises, que me concoctait ma maman, Christiane, que j'embrasse. Mais moi, ce que j'aimais le plus dans le clafoutis, c'est ce qu'on appelle en Lorraine la nigaine, c'est-à-dire l'espèce des pâtes qu'il y a autour et non pas les cerises elles-mêmes, les poires. C'est donc, tu vois, très gentiment, ma maman, que j'adore, pour moi, faisait toujours une part du clafoutis dans laquelle il n'y avait pas de cerise, pas de framboise, enfin, il y avait juste la pâte, tu vois, un peu brute. Ma texture serait... Alors, j'hésite entre le bois, parce que quand tu touches du bois, c'est tout de suite chaud. C'est l'inverse de l'effet pieds nus sur le carrelage. Pour réenchanter sur le vivant, tu vois, qui est un peu la mission que je me donne, que les gens ont besoin de ce merveilleux, de ce sourire, c'est même ces petites choses qu'on ne comprend pas bien, ce genre d'inutile merveilleux. Le son de la grande sauterelle verte, parce que c'est un son que je n'entends plus. Comme j'ai dit au début, j'ai 52 ans, et comme tu t'en doutes, c'est un peu l'âge où tout commence à foutre le camp, gentiment. C'est-à-dire que tu commences à voir moins bien, tu entends moins bien, et moi, vu que j'ai beaucoup plongé dans ma vie, j'ai eu des otites à répétition. Tu vois, je suis pas du tout sourd, mais je pense que mes aigus, j'entends moins bien dans les aigus. Et les sauterelles vertes émettent un son qui est très léger, très, très fin, presque indiscernable, une petite brise. Je dirais que comme beaucoup de curieux et beaucoup de journalistes scientifiques et d'humains en général, moi ce qui me fait courir, c'est ce que je connais pas encore.
Dis-nous, comment retranscris-tu cette vision du vivant dans tes projets ?
vraiment, j'essaye de ne pas y mettre, mais c'est évidemment raté à chaque fois, hein, mais j'essaye de ne pas y mettre trop de ce que j'en pense. J'essaye de ne pas y mettre trop de jugement de valeur sur ce vivant. Si tu veux, moi, mon grand truc, c'est de raconter le plus factuellement possible avec, tu vois, des détails, des dates, des processus, des exemples, des noms. Vraiment le plus d'informations factuelles possible, plutôt que d'utiliser trop d'adjectifs du genre « c'est beau, c'est grand, c'est merveilleux ». En ce moment, j'ai la chance d'avoir deux stagiaires qui m'aident, une sacrée équipe de bénévoles qui écrivent des articles aussi sur mon site balisouravion.com. Et tu vois, à tous ces gens que je forme, j'explique modestement que quand tu décris quelque chose, ça sert à rien de dire « c'est grand, c'est vieux, c'est beau ». Non, ça mesure 2,30 mètres. Ou ça a 27 ans, ou 78. Donc moi, j'essaye évidemment de retranscrire le plus fidèlement possible ce qui se passe. Alors ça m'empêche pas, de temps en temps, de larguer un commentaire ou un sourire. Tu vois, la neutralité absolue, l'objectivité absolue dans mon métier est un mythe. Quand bien même on essaierait, on n'y arriverait jamais. Mais voilà, c'est juste pour dire que je pense que le vivant n'a besoin de rien d'autre que d'être raconté et qu'on lui foute la paix pour qu'on lui soit utile. Il n'y a guère besoin de plus que ça.
D'après toi, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Alors, pour l'instant, force est de constater que l'humain apporte beaucoup de malheur sur ce que j'appelle mon frère et sœur du vivant. C'est vrai, c'est un peu... la métaphore, c'est qu'on prend toute la place, quoi. Vraiment, non seulement on prend toute la place, non seulement l'homme est un goinfre, mais en plus, il ne débarrasse pas la table. Enfin, tu vois, en gros, il prend tout ce qu'il y a sur la table, et en plus, il laisse toutes ses merdes sur la table après s'être servi comme un goinfre. Donc bref, je fais un dessin à personne. Enfin, chacun est au courant que nous sommes dans une sixième extinction de masse, hein, inédite par son rythme. Les espèces disparaissent à un rythme qui est de 100 à 1000 à 10 000 fois plus élevé que la normale, par rapport à ce qui a été étudié, par rapport à d'autres périodes, entre guillemets, où l'humain n'avait encore pas pris son sort. De la même manière qu'il a bien entamé sa destruction, je pense qu'on devrait tous tendre vers un effort prioritaire pour lui refaire la place à laquelle il a droit. Même notre mort, même l'heure de notre mort, est un dernier vol qui est fait aux vivants, dans la mesure où toute notre vie, on fait nos besoins, notre urine, nos fesses, dans de l'eau propre, qui ne revient pas fertiliser la terre ou d'autres endroits comme ça, pour ce qui est l'alimentation, l'épuration, tout ça. Enfin, donc, toutes les molécules qui nous composent et que le vivant nous a prêtées, on devrait lui rendre. Et à l'heure de notre mort, on a le choix entre la peste et le choléra. C'est-à-dire qu'on a le choix entre être incinéré, 230 kg de CO2, ou être enterré. En tout, c'est un processus qui coûte 850 kg de CO2. Alors qu'il y a d'ores et déjà d'autres procédés qui existent, dont l'humusation, c'est-à-dire le compostage humain. C'est-à-dire que nos corps, d'évidence, les molécules qu'ils composent devraient être rendues aux vivants qui nous ont prêtés. Mais en étant incinérés et en étant enterrés à 3 mètres de profondeur au moins dans un cercueil inviolable, t'imagines bien que ce qui reste de nous au bout de 10 ans ou d'un siècle, ça n'a absolument pas profité aux vivants autour. La vie, elle s'opère dans les premiers, maximum dans les 20 premiers centimètres du sol. Quand tu nous enterres à 3 mètres, tu n'offres rien à personne. On ne fait toujours pas ça au 21e siècle. Les gens ont peur d'être mangés par des petits vers après leur mort, ce qui n'a aucun sens. Donc, tu vois, est-ce que être incinéré, c'est mieux que d'être mangé par des petits vers? L'humain reste enfermé dans ses préjugés. Il milite dans une association qui s'appelle Humo Sapiens. Et moi, j'espère que quand je mourrai, on aura trouvé déjà un moyen de retirer toutes les merdes que j'aurai accumulées dans mon corps, tous les métaux lourds, tous les antibiotiques, tous les P-Face, les perturbateurs endocriniens, etc., etc. J'espère que je pourrai être composté, humusé, de la même manière que moi je composte ce que je mange. Pour répondre en une phrase à ta question, je pense que l'humain n'a pas de priorité plus absolue que de repartager avec le vivant tout ce qu'il nous offre et tout ce qu'on lui confisque au quotidien avec tous nos caprices futiles quotidiens de la télé aux emails en passant par notre façon de nous habiller, nos vacances en jet et notre façon de manger, etc., etc.
on va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM, portait sur la publication de la première liste rouge pour les champignons dits à chapeau. Que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas des champignons vénéneux, mais bel et bien des champignons susceptibles d'être en danger d'extinction. Car avant toute protection, la communauté scientifique et la législation demandent de connaître l'état des populations de champignons. En clair, est-ce que telle ou telle espèce est en train de disparaître ou au contraire de se multiplier et de coloniser des habitats sereinement? Avec l'abattage des vieux arbres, le remplacement des chênes indigènes par des pins, les multiples biocides dont les fongicides, littéralement tueurs de champignons, la déprise agricole ou l'enrichissement en azote, ou encore la dégradation des milieux dunaires par le motocross par exemple, détruisent les habitats des champignons. Ces êtres, principalement souterrains, sont une porte d'entrée à la considération du microscopique qui prolifère sous nos pieds. Bioindicateur de la santé de nos sols, ils occupent une place indéniable pour la fonctionnalité de nos écosystèmes terrestres. Bolets, lactaires et trichlonomes diffusent un système racinaire incroyablement développé tandis que nous n'apercevons à la surface qu'un pétillant chapeau que certains d'entre nous dégustent goulûment. Avec cette liste rouge, on découvre qu'il réside de gros manques de connaissances puisque 25% des champignons à chapeau n'ont pas assez de données pour juger leur état de conservation. Pour ce premier bilan, il est présenté quelques 4% d'espèces de champignons à chapeau sous le statut menacé. Et toutes ces connaissances sont encore éloignées de la réalité puisque les organismes de mycologie, les experts de champignons tout genre, les plus aguerris, estime que n'est connu que 5 à 15% de la diversité fongique. À la lumière de ta vision du vivant, que penses-tu de tout cela?
On est en train de passer une belle série avec Guillaume Lopez, qui est un jeune mec incroyable qui est passionné de ce que tu appelles la diversité fongique en effet. Et ce que j'ai bien aimé dans cette émission qu'on a enregistrée avec lui, c'est qu'il m'a appris beaucoup de choses au-delà de ce qu'on pourrait attendre classiquement des champignons. Parmi les choses les plus folles que j'ai appris avec lui, c'est que par exemple, il y avait des champignons qui étaient capables de vivre dans le kérosène des avions et qu'on s'était rendu compte de leur existence parce qu'il se rendait compte qu'il y avait du kérosène qui disparaissait dans les avions. Et il se demandait où il était passé. Et en fait, il avait été métabolisé par des champignons. Et Guillaume, sa grande phrase, c'est de dire que le 21e siècle sera fongique ou ne sera pas. C'est un continent sous-exploité des champignons, entre les champignons et les arbres. Ce qui se passe dans les mycorhizes, cet échange qui est résumé par cette fantastique phrase « Passe-moi le sel, je te donne le sucre ». C'est-à-dire que les champignons, biologiquement, sont plus proches des animaux que des végétaux. Ce qui est fou parce que les champignons n'ont eu droit qu'à leur règne à part. Ils ont été sortis du règne des plantes auxquelles ils ne ressemblent pas du tout structurellement. Eh bien, les champignons, par contre, sont capables de rassembler les sels minéraux du sol et de les donner au niveau des racines aux arbres qui, en échange, leur laissent un peu de leur sucre, du sucre que ces plantes savent fabriquer, ce dont les champignons sont rigoureusement incapables. Les champignons sont beaucoup plus proches des animaux, de nous-mêmes, que des plantes.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiterais-tu nous communiquer?
Je commande d'abord mon livre qui va sortir, pour en finir avec les idées fausses sur le vivant, dans lequel je débunk 80 grosses idées fausses que tout le monde répète à longue vie, à longueur de journée, et qui sont terrifiantes. Enfin, par exemple, le fait de dire que l'Amazonie est le poumon vert de la planète, ça c'est triplement faux. Chaque idée fausse est formulée justement comme une idée fausse. Donc, les virus sont des sous-produits du vivant. Or, les virus sont extrêmement importants. Ils ont été au tout début de la vie, et encore aujourd'hui, les virus sont absolument partout. Et ils ne sont pas que des grands méchants qui nous empêchent de tourner en rond. Mais j'ai quand même envie de citer quand même quelqu'un d'autre que j'ai eu la chance de rencontrer, Clara Arnaud, qui a publié un bouquin qui marche très bien chez Actes Sud et qui s'appelle « Et vous passerez comme des vents fous ». Elle habite en Ariège, dans un endroit où il y a zéro touriste. Elle m'a montré des fils WhatsApp. Il y avait un fil WhatsApp covoiturage Il y a un fil WhatsApp, l'échange de bouffe des jardins de chacun. Il y a un autre fil WhatsApp sur tout ce qui est rassemblement culturel, petite réunion entre copains, un truc comme ça. Enfin, tu vois, le premier supermarché est à 50 minutes de route en voiture, et vous passerez comme des vents fous. C'est un beau titre. Apparemment, ça vient d'un vers de poésie arménienne, Matveï. On est le début mai, et le vivant sauvage autour de nous explose. Enfin, tu vois, c'est la période des mines, des jeunes, de beaucoup de choses. Et qui dit ça, dit encore plus de problèmes de colocation avec l'humain. Et donc, on est pile dans l'époque où ces centres de soins faune sauvage sont inondés. Celles et ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, essayez de mieux connaître le vivant, effectivement, à pas ramasser tout ce qui bouge, tout ce qui traîne. Alors parfois, les animaux sont effectivement abandonnés et blessés, mais en fait, c'est une minorité de cas. Tu vois, les centres de soins sur faune sauvage ne savent plus où donner de la tête et où foutre les bébés hérissons qu'on leur apporte. Si vous avez un jardin et une bibliothèque, alors vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie. Cicéron.
Tu y as pêché où, baobab, acajou.
Voici que cet épisode aux côtés de ce voyageur aux yeux émerveillés prend fin. La semaine prochaine, la feuille de chou refait son apparition pour une nouvelle du vivant, fraîchement cueillie.
Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.